Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu, qui avez donné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, avant de continuer d'avancer dans le commentaire des Pères de l'Église sur l'Évangile selon saint Marc, une nouvelle concernant le site d'Anne-Marie et la chaîne YouTube d'Anne-Marie. Donc j'ai commencé un nouveau cycle de conférences sur l'œuvre magistrale de Mgr Gaume. Il a écrit toute une série de livres, il y a 12 volumes, sur la Révolution en 1856. C'est passionnant, très peu de gens ont le temps de lire cette œuvre considérable. Et j'ai commencé déjà à expliquer, faire une synthèse de ces livres pour tous ceux qui n'ont pas le temps de le lire justement. Donc j'ai déjà placé sur le site YouTube et sur la chaîne YouTube et sur mon site internet les trois premières conférences, chacune d'une heure et demie. Donc pour tous ceux qui veulent travailler, qui ont le temps de travailler, ben prenez le temps, trouvez le temps et travaillez ces sujets qui sont très importants. Voilà. Donc dans saint Marc, nous en sommes au chapitre 10, à la page 27 sur le polycopier qui contient donc les chapitres 6 à 10 de saint Marc. Commençons par les 12 premiers versets. Jésus, étant parti de là, vint aux confins de la Judée, au-delà du Jourdain, et de nouveau les foules s'assemblèrent auprès de lui, et selon sa coutume, il les instruisit de nouveau. En s'approchant, les pharisiens lui demandèrent, pour le tenter, est-il permis à un homme de renvoyer sa femme ? Mais il leur répondit, que vous a ordonné Moïse ? Ils dirent, Moïse a permis d'écrire un acte de divorce et de la renvoyer. Jésus leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur qu'il a écrit pour vous cette ordonnance. Mais au commencement de la création, Dieu fit un homme et une femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. Ils seront deux dans une seule chair, ainsi ils ne sont plus deux mais une seule chair. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare donc pas. Dans la maison, ses disciples l'interrogèrent encore sur le même sujet, et il leur dit, « Quiconque renvoie sa femme et en épouse une autre commet un adultère à l'égard de celle-là. Et si une femme renvoie son mari et en épouse une autre, ou en épouse un autre, pardon, elle commet un adultère. » Alors ce texte est important, il a fait couler beaucoup d'encre, et beaucoup de gens qui ne sont pas très au courant prétendent que, ici, notre Seigneur Jésus-Christ, enseigne que le mariage n'est donc pas indissoluble, ce qui est totalement faux. D'ailleurs, il le dit expressément, il ne faut pas séparer un verset d'un autre. Lorsqu'au verset 4, notre Seigneur dit « Moïse a permis d'écrire un acte de divorce et de la renvoyer », il faut mettre ça en comparaison avec le verset 9, « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare donc pas ». Dieu n'a donc jamais autorisé le remariage tant que l'époux légitime ou l'épouse légitime est vivant et vivante. Il faut bien comprendre ça, surtout aujourd'hui où le mariage est tellement attaqué. Le mariage est dans son essence même indissoluble. mariage d'un contrat entre un homme et une femme devant Dieu. Et pour que ce contrat soit valide, il faut l'indissolubilité, l'unité et l'acceptation des enfants. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est un détail, mais c'est un détail qui en dit long. Dès qu'une religion accepte de détruire l'indissolubilité du mariage, donc accepte le remariage et le divorce avec possibilité de remariage, eh bien, ces mariages sont ipso facto invalides. Pour ça, par exemple, que tous les mariages des églises orthodoxes qui acceptent en général trois divorces, donc trois remariages, sont invalides. Alors il faut bien se mettre ça dans la tête pour justement ne pas se laisser contaminer par les idées nouvelles. Beaucoup de gens ont le cerveau à l'envers sur ces sujets-là. Ce qui est permis, c'est une séparation s'il y a une raison grave. Bon, d'abord, ce qu'il faut dire, première chose importante, c'est qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire. Bon, mais il peut y avoir malheureusement, hélas, des cas très douloureux qui peuvent justifier une séparation soit temporaire, soit une séparation malheureusement plus définitive. Mais une séparation entre deux époux mariés légitimement n'équivaut jamais à une possibilité de se remarier. En soi, strictement parlant, ce n'est pas le divorce qui est interdit, mais le remariage. Bon. Dans certains pays, dès qu'il y a une séparation d'au-delà d'un an, le divorce est immédiatement ipso facto contracté par l'État pour ce mariage en question. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si des gens sont divorcés, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vivent dans le péché mortel tant qu'ils ne sont pas remariés. J'ai connu plusieurs cas douloureux de personnes, j'ai un cas en mémoire entre autres au Mexique, une personne qui était divorcée, son mari l'avait abandonnée pour partir avec une autre, elle était donc divorcée par l'État et elle n'osait plus s'approcher des sacrements parce qu'elle était divorcée. J'ai dû expliquer à cette dame qu'à partir du moment où elle vit seule, ce qui était le cas, elle pouvait communier, se confesser, communier bien entendu. Alors ce qu'il faut comprendre, la loi est la suivante, c'est le dogme de l'Église catholique en fait. Pour un mariage valide et consommé entre deux baptisés, seule la mort de l'un des conjoints rompt le lien sacré et rend donc à l'époux survivant la liberté de contracter de nouvelles noces. Donc, dans le cas d'un mariage valide, ratifié et consommé entre deux baptisés, seule la mort rompt ce lien. Et aucune puissance au ciel et sur la terre ne peut invalider un tel mariage. Alors les pères de l'Église l'expliquent d'ailleurs, prenez à la page 27 sur le polycopier. Notre Seigneur était loin d'approuver le divorce. Le législateur qui réprimait la fougue d'un esprit trop prompt à désirer la séparation par la sage lenteur que demande la rédaction d'un acte, car chez les Hébreux, les scribes seuls avaient le droit d'écrire l'hébreu. Donc, il peut y avoir des cas, malheureusement, où il vaut mieux se séparer plutôt que de s'envoyer des assiettes à la figure à longueur de journée. Entre autres, les cas de vices, surtout de vices contre nature. Les vices contre nature, il est évident que si, je donne des exemples qui malheureusement arrivent, imaginez un époux qui annonce à sa femme qu'il commence à avoir des relations hors mariage selon la nature ou contre la nature, des relations homosexuelles par exemple, ou qui commence à vouloir avoir une maîtresse, comme on dit. Eh bien, il est évident qu'une épouse ne peut pas tolérer une situation pareille et que si le mari ne veut pas changer de vie, il est préférable dans certains cas, et même très souvent dans ce cas-là, pour l'épouse de se séparer d'avec son mari plutôt que de vivre dans des circonstances impossibles. Donc si la promiscuité dans un mariage est telle qu'il y a un danger pour la santé, pour la foi des enfants ou de l'époux ou de l'épouse, il est évident qu'il vaut mieux une séparation, même si cela doit entraîner un divorce civil, puisqu'il n'y a pas de divorce religieux, même si cela doit entraîner un divorce civil, il vaut mieux une séparation plutôt que de s'entretuer ou de risquer de perdre sa foi. Il y a même une obligation pour un époux ou une épouse s'il se rend compte qu'en restant avec son épouse légitime, il risque de contaminer sa foi catholique ou que les enfants risquent de perdre la foi, il vaut mieux, dans ce cas-là, faire une séparation plutôt que de mettre sa foi catholique en péril. C'est du bon sens élémentaire. Donc, la polygamie, un homme avec plusieurs femmes, ou la polyandrie, une femme avec plusieurs hommes, est contre nature. Si l'intention de Dieu, disent les pères, eût été que l'homme pût renvoyer sa femme pour en épouser une autre, il aurait créé plusieurs femmes en même temps qu'un seul homme. Alors, une autre objection à laquelle il faut savoir répondre, qui est très fréquente, les gens vous disent, mais dans l'Ancien Testament, Dieu avait autorisé la polygamie. On voit par exemple Abraham qui avait plusieurs épouses. Dieu avait autorisé la polygamie au début de l'histoire de l'humanité pour peupler la terre. C'était une dérogation qui n'est plus acceptable aujourd'hui. Donc on ne peut pas accepter le principe de la polygamie aujourd'hui. Et donc on ne peut pas non plus accepter le principe d'un divorce avec remariage. C'est pour cela que Dieu dit bien au verset 9, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare donc pas. Donc, si la séparation peut être autorisée dans un cas grave, un remariage après divorce est absolument impossible. Encore une fois, un mariage catholique ratifié et consommé entre deux baptisés ne peut être détruit que par la mort. Alors, parfois, on entend des gens qui nous racontent un peu n'importe quoi sur ce sujet. Donc, je voudrais rapidement vous rappeler la doctrine de l'Église concernant ce sujet qui est important. Donc, pour ceux qui veulent travailler le sujet, vous avez sur le site internet dont je m'occupe la lettre numéro 67. Sur les annulations de mariage, une grande supercherie avec la conférence d'une heure et demie qui correspond à cette lettre. Donc vous avez tout ça sur internet pour ceux qui ont besoin de se rafraîchir un petit peu la mémoire. Donc je voudrais vous donner la doctrine de l'Église rapidement sur ce sujet. Donc quels sont les cas où il peut y avoir des véritables annulations de mariage ? Donc il faut savoir qu'il existe quatre circonstances dans lesquelles le lien d'un mariage valide peut être rompu, qui correspond à une situation très spéciale. Vous avez aussi tous les renseignements sur ce sujet pour ceux qui veulent aussi retravailler un peu leur doctrine sur ce sujet-là dans le livre excellent du Père Barbara, la catéchèse catholique du mariage, c'est le numéro 25. Donc, quatre circonstances qui sont des cas d'exception, dans des cas rares, qui correspondent à une situation très spéciale. Donc, pour les deux premiers cas, ça concerne des mariages non consommés, c'est-à-dire des mariages blancs. Qu'est-ce que c'est qu'un mariage blanc ? Par exemple, le mariage entre Saint Joseph et la Très Sainte Vierge Marie, ou le mariage entre Saint Henri d'Allemagne et Sainte Cunégonde. Donc, mariage blanc, ça veut dire des mariages qui sont des véritables mariages, mais pour des raisons supérieures, les époux décident de ne pas avoir de relations physiques. Bon, pour le troisième cas, cela concerne un mariage naturel entre deux païens. Et enfin, pour le quatrième cas, c'est un cas concernant un mariage entre un baptisé et un non-baptisé dans ou hors de l'Église catholique. Donc voilà le premier cas. C'est le cas de vœu solennel dans le cas d'un mariage valide mais non consommé entre deux baptisés ou entre un baptisé et un infidèle. Cette thèse est de foi. Donc voilà ce qu'enseigne le droit canonique, c'est le canon 1119. Le mariage non consommé entre des baptisés ou entre une partie baptisée et une partie non baptisée est dissous de plein droit. Par la profession religieuse solennelle à la demande des deux parties ou de l'une d'elles, même contre le gré de l'autre. Alors qu'est-ce que c'est qu'un mariage non consommé ? Attention, un mariage non consommé, c'est un mariage sans relation physique, donc un mariage blanc. Dans le cas de deux personnes qui sont mariées légitimement, mais qui n'ont jamais consommé leur mariage, si, des cas extrêmes évidemment, si l'un des deux époux rentre en vie religieuse et reçoit la profession, fait la profession religieuse solennelle, qui correspond à un vœu solennel de chasteté, il est évident que ce vœu solennel de chasteté est incompatible avec l'usage du mariage. Et donc, un tel vœu va annuler le mariage non consommé. Encore une fois, il s'agit ici d'un mariage non consommé. Le Concile de Trente enseigne aussi, celui qui dit qu'un mariage ratifié non consommé n'est pas dissous par la profession religieuse solennelle de l'un des deux ou l'autre conjoint, qu'il soit anathème. Pour ceux qui veulent vérifier les textes, c'est sur le Danziger au numéro 976. Alors le deuxième cas concerne aussi un mariage non consommé. C'est la dispense du pape qui est possible dans le cas d'un mariage valide mais non consommé entre deux baptisés ou entre un baptisé et un infidèle. Bon, voilà ce que dit le Code de droit canonique. Au même canon 1119, le mariage non consommé entre des baptisés ou entre une partie baptisée et une partie non baptisée est dissous par une dispense concédée par le siège apostolique pour une juste cause à la demande des deux parties ou de l'une d'elles, même contre le gré de l'autre. Encore une fois, il s'agit là, ici, d'un mariage non consommé. Dans le cas d'un mariage non consommé, le pape, et le pape seul, possède le pouvoir de rompre ce lien. Troisième cas. Donc, je vais rapidement, parce que c'est pas vraiment... Je ne vais pas donner ici un cours complet. Pour ceux, encore qu'une fois, qui veulent plus de renseignements sur le sujet, allez aussi sur mon cours sur le mariage, sur les sacrements. Vous allez à la section mariage et là vous aurez tous les renseignements et tous les détails. Troisième cas, c'est le cas du privilège paulin dans le cas d'un mariage naturel valide, même consommé, contracté entre deux païens. C'est le cas lorsqu'après un mariage contracté validement et même consommé, dans ce cas-là, par deux non baptisés, si l'un d'entre eux se convertit et reçoit le baptême. Si l'autre ne veut pas se convertir et cohabiter pacifiquement avec son conjoint devenu chrétien, le lien de ce mariage valide peut être rompu et l'époux chrétien peut contracter validement un nouveau mariage. On appelle ça le privilège paulin, parce que saint Paul en parle, à la première aux Corinthiens, chapitre 7, versets 12 à 15. Si un frère a une femme infidèle, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. Et si une femme fidèle a un mari infidèle, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le quitte pas. Car le mari infidèle est sanctifié par la femme fidèle, et la femme infidèle est sanctifiée par le mari fidèle. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Mais si la partie infidèle se sépare, qu'elle se sépare, car le frère ou la sœur ne sont pas asservis en ce cas, mais Dieu nous a appelés à la paix. Donc, le Code de droit canonique, en son canon 1120, reprend la même idée. Le mariage légitime entre non-baptisés, même consommés, est rompu en faveur de la foi en vertu du privilège paulin. Ce privilège ne vaut pas lors d'un mariage contracté entre une partie baptisée et une partie non-baptisée avec dispense de l'empêchement de disparité de culte. C'est-à-dire que ce cas n'est possible que dans le cas précis, si vous voulez, d'un mariage entre deux païens. Enfin, quatrième cas, c'est rare, ce qu'on appelle le privilège pétrinien. Dans le cas d'un mariage valide, soit même consommé, contracté, soit entre un non baptisé et un baptisé en dehors de l'Église catholique, anglican par exemple de la Haute Église orthodoxe, soit entre un non baptisé et un baptisé dans l'Église catholique après dispense de l'empêchement de disparité de culte. C'est des cas assez rares. Dans ces cas-là, il y a une annulation d'un mariage. Mais ce sont, encore une fois, pour les cas surtout qui nous préoccupent, des cas très particuliers, entre autres avec des mariages non consommés. Donc, pour les cas fréquents, les cas de la plupart des gens qui sont mariés légitimement, fidèles entre autres, on ne peut donc pas accepter un remariage après divorce, c'est absolument impossible. Au contraire, non seulement Dieu unit l'homme à une seule femme, disent les pères, mais il veut que pour s'attacher plus complètement à elle, il abandonne même les auteurs de ses jours. L'homme abandonnera son père et sa mère, dit Dieu par la bouche d'Adam, et il s'attachera à son épouse. Cette expression « il s'attachera » indique assez nettement l'indissolubilité du mariage. Il faut dire la même chose de l'expression suivante « il s'attachera à son épouse » et non pas au pluriel « à ses épouses ». Donc Saint Jean Chrysostome, très ferme, si c'est un crime de séparer les deux créatures que Dieu lui-même a unies, c'en est un beaucoup plus grand de chercher à séparer l'Église de Jésus-Christ et à qui Dieu l'a unie. Donc le mariage est aussi un symbole de l'union du Christ avec son Église. Donc de même qu'on ne peut pas séparer ce que Dieu a uni sur le plan naturel entre deux époux, on ne peut pas non plus séparer ce que Dieu a uni de façon surnaturelle, symboliquement le mariage qui existe entre l'Église de Jésus-Christ et notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc aujourd'hui, il faut rappeler à temps et à contre-temps ces choses-là. Les annulations de mariage absolument invalides sont de plus en plus fréquentes. Même la Fraternité Saint-Pulis, hélas, les accepte dans certains cas, ce qui est absolument inadmissible. On ne peut pas accepter ces choses-là. Et donc, je demande encore une fois à tous nos fidèles qui pourraient assister à nos messes, mais de façon occasionnelle, et qui seraient dans une situation de ce genre, c'est-à-dire des divorcés remariés, tant que leur époux légitime est toujours vivant, de s'abstenir absolument de recevoir les sacrements chez nous. Ils ne peuvent pas recevoir, même chez moi, une personne qui viendrait à la messe chez moi un dimanche que je ne connais pas, par exemple, qui serait dans un cas comme ça, par exemple une personne divorcée, remariée, avec une, entre parenthèses, annulation accordée par la Fraternité Saint-Pédis ou l'Église de Vatican II, ils ne peuvent pas recevoir les sacrements chez moi, ni la confession, ni la communion, tant qu'ils sont dans cette situation-là. Donc l'évangéliste dit, c'est en bas de la page 27, commentaire des pères, l'évangéliste dit que les apôtres interrogèrent notre Seigneur une seconde fois, parce que leur question n'est que la répétition de celle des pharisiens, et qu'elle a pour objet l'état du mariage. Cette répétition n'est pas inutile, car la réponse que renouvelle le Verbe de Dieu, loin de produire l'ennui, est un nouveau stimulant pour la faim et la soif. Ceux qui me mangent auront encore faim, ceux qui me boivent auront encore soif. Remarquez bien que notre Seigneur Jésus-Christ parle de l'époux et de l'épouse. Il ne parle pas du parent numéro 1 ou parent numéro 2, comme le font les républicains d'aujourd'hui. Donc plus que jamais, il faut rappeler à temps et à contre-temps cette doctrine qui est absolument fondamentale, parce que la famille est la cellule de base de la société. Très très rare d'entendre aujourd'hui des chefs d'État qui ont le courage de rappeler la doctrine traditionnelle, le droit naturel sur ce sujet. Entre autres, M. Poutine l'a rappelé avec force, et j'en suis très heureux. Quel dommage que M. Macron ne suive pas l'exemple de M. Poutine dans ce domaine. Donc, cette séparation peut avoir lieu, disent les pères, pour deux causes. D'une part, la fornication. C'est la raison charnelle, ou la crainte de Dieu, c'est le motif spirituel qui a déterminé un grand nombre de séparations mutuelles. Petite note à ce sujet, importante aussi, même dans les temps de pénitence, comme par exemple le temps de carême. Avant, au Moyen-Âge, siècle de foi, c'était la coutume pour des époux chrétiens, mariés légitimement, pendant le temps du carême, de pratiquer la chasteté. Cependant, attention, l'Église ne l'a jamais rendu obligatoire, la pratique de la chasteté pendant le carême. Bon. Si des époux, ça j'insiste parce que ça provoque parfois de grosses difficultés dans le ménage, si des époux ont décidé d'un commun accord le jour du mercredi décembre, le premier jour du carême, de pratiquer la chasteté totale pendant le mariage, c'est possible, légitime, pour un temps seulement, nous dit saint Paul, donc si des époux ont décidé de pratiquer cette chasteté, il est évident que même s'ils ont pris une décision ensemble au début du carême de pratiquer la chasteté pendant tout le carême, si l'un des époux se rend compte que cela provoque de grosses tentations chez lui, par exemple, imaginez un époux qui me dise, monsieur l'abbé, je me suis engagé avec mon épouse à pratiquer la chasteté pendant tout le temps du carême, mais je me rends compte que c'est trop difficile pour moi, surtout à cause des tentations constantes que j'ai au bureau, à cause des secrétaires autour de moi qui sont toutes habillées plus ou moins comme des prostituées, c'est trop difficile pour moi, j'ai trop de tentations, donc est-ce que je suis tenu de remplir ma promesse à ma femme en début de carême? La réponse est catégoriquement non. Dans ce cas-là, vous êtes tenu sous peine, je dirais littéralement sous peine de péché, d'aller voir votre épouse et de lui dire, écoute, ma chère épouse, j'ai trop de tentations, donc je voudrais revenir sur ma promesse. Et l'épouse, dans ce cas-là, est tenue de renoncer à son intention de pratiquer la chasteté pendant le carême pour se donner à son mari. C'est une obligation grave. Un petit mot aussi, une petite note. C'est un peu des sujets tabous au confessionnal. J'ai remarqué, les femmes n'en parlent jamais. Mais c'est aussi une source de grosses, grosses difficultés dans les ménages pour des personnes qui ont atteint la cinquantaine. Très souvent, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, monsieur l'abbé, j'ai vraiment un problème parce que mon épouse est passée maintenant l'âge d'avoir des enfants, elle est en ménopause, et depuis qu'elle est en ménopause, elle ne veut plus rien savoir, elle ne veut plus que je la touche, on ne peut plus du tout avoir de relations parce qu'elle dit que puisqu'on ne peut plus avoir d'enfants, eh ben, on n'est plus obligé d'avoir des relations sexuelles. Attention, ce qu'on appelle le dû conjugal est maintenu pendant toute la durée du mariage. Parce que s'il y a une ménopause pour les épouses, il n'y a pas de ménopause pour les époux. Et donc, beaucoup de ménages se sont écroulés. J'ai eu plusieurs cas très douloureux. J'ai été témoin d'époux qui se sont, de ménages qui se sont écroulés parce que madame ne voulait plus rien savoir. Et l'homme a fini par en avoir par-dessus la tête et a fini par quitter son épouse, malheureusement. Ce qu'il n'a pas le droit de faire, hein. Mais beaucoup d'épouses se rendent pas compte du tout de ces difficultés-là. Elles m'ont dit, mais monsieur l'abbé, mon mari m'a abandonné, c'est un scandale, il est parti. Et malheureusement, il s'est mis en ménage avec une autre, ce qui est un péché grave de la part de l'épouse, c'est évident. Mais ce péché grave d'infidélité, de fornication, d'adultère même pour un époux, est provoqué par l'épouse. C'est l'épouse qui peut être dans certains cas responsable de l'adultère de son époux, dans le sens qu'elle refuse de se donner à lui. Le dû conjugal est une obligation pour tout époux, pour les époux légitimement mariés bien sûr, quand il est demandé avec, de façon raisonnable. Bon, il est évident que si un époux demandait l'acte conjugal, je ne sais pas, plusieurs fois par jour à son épouse, ou lorsque son épouse est dans un état de fatigue important, il est évident que de façon extraordinaire, une épouse aurait le droit de se refuser à son époux pour une nuit ou deux parce que il y a une raison proportionnelle. Bon, c'est autre chose. Encore une fois, du bon sens. Passons à la page 28. Donc les pères de l'Église sont clairs, en haut de la page 28, voilà le résumé donc de la doctrine des pères, qui est la doctrine catholique, qui est le catéchisme. Aucun motif approuvé de Dieu ne peut autoriser un homme à s'unir à une autre femme tant que vit la première. Le mariage est absolument indissoluble. Donc, tout mariage de droit naturel est intrinsèquement indissoluble. Alors passons au verset 13 à 16. On présentait à notre Seigneur des petits enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples repoussaient durement ceux qui les présentaient. Jésus, les voyant, en fut indigné et leur dit : Laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Et les embrassant, en imposant les mains sur eux, il les bénissait. Donc ici, notre Seigneur Jésus-Christ parle de la vertu d'humilité. Laissez venir à moi les petits enfants, et surtout quand il dit si je ne reçois pas le royaume des dieux des cieux comme un petit enfant, je n'y entrerai pas. Justement, c'est bien pour marquer l'importance de la vertu de simplicité, la vertu de charité, la vertu d'humilité. L'enfant, avant d'être corrompu par le milieu dans lequel il vit, souvent a une certaine innocence. C'est de cette innocence dont parle notre Seigneur. Donc les disciples, disent les pères, repoussaient ceux qui présentaient ces enfants par égard pour la dignité de notre Seigneur Jésus-Christ. Les disciples donc repoussaient par de rudes paroles ceux qui les lui présentaient. Mais le Sauveur, voulant enseigner à ses disciples à fuir toute pensée d'orgueil, disent les pères, et à fouler aux pieds toute hauteur mondaine, accueille ses petits-enfants et déclare que le royaume des cieux leur appartient. Il leur dit, laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez point. Donc c'est ici la vertu d'humilité qui s'oppose à l'orgueil. L'orgueil qui est un péché capital, donc la source d'autres, de toute une série de péchés. Donc il exhorte ensuite ses disciples, qui sont déjà des hommes faits, à condescendre à tout ce qui peut être utile aux enfants, à se faire enfant avec les enfants pour les amener à Dieu, à l'exemple de celui qui est en Dieu lui-même, s'est humilié jusqu'à se faire enfant. D'où l'obligation grave pour les parents de garder, d'aider les enfants à garder leur innocence le plus longtemps possible, si possible toute leur vie. L'enfant, malheureusement, ne va pas garder son innocence très longtemps parce que même les enfants ont les marques du péché originel, puisque le péché originel disparaît, détruit par le baptême, mais pas les blessures du péché originel. Et on ne s'en rend pas compte. Je sais que j'ai scandalisé parfois certains parents qui venaient présenter un enfant au baptême, quand je disais, la petite causerie que je donne toujours au début du baptême, pour y rappeler un petit peu les points du catéchisme, en disant, attention, on oublie trop que ce petit enfant tout souriant, tout mignon, petit poupon, là, tout mignon, qui se présente au baptême, qui est présenté au pape du baptême par ses enfants, par ses parents, pardon, avant le baptême, littéralement appartient au démon. C'est bien pour ça qu'il y a deux exorcismes pendant la cérémonie du baptême pour expulser Manu Militari, littéralement, le démon de l'âme de l'enfant. Et je rappelle aussi, quand je rends l'enfant baptisé à la maman, après la fin du baptême, je rappelle aux parents, j'ai un rappel important en disant, attention, n'oubliez pas que cet enfant qui est maintenant un enfant de Dieu, puisque le baptême fait de nous des enfants de Dieu, c'est très important à comprendre, si cet enfant est enfant de Dieu, il a les conséquences du péché originel. N'oubliez pas que ce bébé a les blessures. L'ignorance, la malice, la faiblesse et la concupiscence. Certes, on ne le voit pas encore, mais n'oubliez pas que ces enfants sont marqués par ces blessures. Et que donc, les parents ont un devoir grave, sous peine de péché mortel, d'éduquer leurs enfants pour leur donner, par la pratique des vertus, surtout des vertus cardinales, de prudence, de justice, de force et de tempérance, de leur donner les moyens surnaturels que Dieu ne va jamais leur refuser, afin qu'ils enseignent à leurs enfants à lutter contre ces blessures. Troisième paragraphe de la page 28, après le verset 16, si un disciple qui fait profession de la foi catholique voit qu'on offre aux sauveurs ceux que le monde considère comme des insensés, des hommes ignorés et misérables, qui sont appelés pour cette raison des petits-enfants, qui se gardent bien de s'y opposer en accusant d'indiscrétion ceux qui veulent les présenter aux sauveurs. Ça permet de faire une petite remarque que j'ai déjà souvent faite, mais qui est très importante, c'est que de même que notre Seigneur Jésus-Christ va reprendre fermement, fortement, les apôtres qui empêchaient les petits-enfants de venir à lui, la réaction de notre Seigneur Jésus-Christ s'applique, à mon avis, tout à fait aussi pour des paroissiens mal intentionnés qui rejettent, qui cherchent à renvoyer des gens qui viennent à la messe traditionnelle pour la première fois ou qui viennent au prêtre pour la première fois et qui ne sont pas des gens de la tradition. J'ai déjà eu des cas douloureux, et pas qu'une seule fois, plusieurs fois dans certaines chapelles, de parents, pas de personnes qui venaient pour la première fois à la chapelle et qui ont été littéralement poussées dehors par des paroissiens qui avaient, ce que j'appellerais un zèle amer, qui leur faisaient des remarques tout à fait déplacées. Par exemple, à cause de leur habillement. Imaginez une femme qui vient pour la première fois à la chapelle et qui n'est pas de voile à la chapelle et qui se présente peut-être en pantalon à la chapelle pour la première fois. Ne dites rien la première fois. En général, les choses se font toutes seules. Imaginez une femme de bonne volonté et qui vient à la chapelle pour la première fois et qui est habillée de façon non correcte pour une chapelle, en pantalon par exemple, qui n'a pas de voile sur la tête. Ne dites rien. Ne dites rien au début, attendez. En général, 9 fois sur 10, les choses se font toutes seules. La personne se voit bien que toutes les femmes dans la chapelle sont en robe, que toutes les femmes ont un voile sur la tête. Et par elle-même, elle change. Et si elle revient, ce que j'espère, eh bien, elle s'habille correctement.
Bon, il est évident qu'il y a des limites. C'est évident que si une jeune femme venait pour la première fois à la chapelle en maillot de bain, il faudrait faire quelque chose. Mais je dirais, dans ces cas-là, laissez le prêtre faire cette remarque. Hein? J'ai eu plusieurs cas vraiment pénibles de personnes qui ont rabroué littéralement avec beaucoup de force des personnes qui venaient pour la première fois, qui sont parties écœurées, qui ne viendront plus jamais. Qui viendront plus jamais. Donc il faut avoir cette vertu de charité pour accueillir les nouveaux. J'ai eu des cas aussi de gens qui se permettaient de dire, monsieur l'abbé, c'est un vrai scandale, telle personne vient à la messe, mais c'est une personne qui ne sait même pas faire son signe de croix, qui ne connaît pas ses prières. Mais évidemment, ce n'est pas une catholique, c'est une personne qui n'a pas pratiqué pendant 40 ans. Donc, laissez les petits-enfants venir à notre Seigneur. Laissez les âmes de bonne volonté venir à notre Seigneur. Donc ça, je pense que c'est très très important d'avoir cette charité que notre Seigneur Jésus-Christ y manifeste. Donc le nom, d'après les pères montrent bien ici que sous le terme de petits-enfants, ce ne sont pas simplement les enfants physiquement parlant qui sont représentés, mais aussi les hommes, les pères disent, les hommes ignorés et misérables qui sont appelés pour cette raison petits-enfants. Plusieurs fois, j'ai eu des gens qui sont venus se plaindre, des gens qui venaient pour la première fois dans nos chapelles et qui disaient, monsieur l'abbé, on ne se sent pas du tout accueilli, on a l'impression de rentrer dans une secte parce que les gens qui sont dans ce groupe, manifestement, ne veulent pas de gens qui ne sont pas du milieu, comme ils disent. Voyez ? Donc, ayez cette vertu de charité qui est absolument nécessaire. Imaginez qu'une personne soit rabrouée par un fidèle de tradition d'une chapelle parce qu'il vient pour la première fois et qu'il n'a pas encore les us et les coutumes des catholiques et qu'il quitte la chapelle à cause du comportement de ce fidèle. Et ce fidèle a une responsabilité, peut avoir une responsabilité énorme. Imaginez que cette personne se soit convertie complètement et peut-être aurait amené à la chapelle une trentaine d'autres personnes parmi ses amis dans les milieux non catholiques qui se seraient convertis, se seraient mis sur le chemin du paradis grâce à cette première conversion. Eh bien, imaginez une personne qui rabroue ce fidèle qui vient pour la première fois, elle sera responsable d'une trentaine de conversions qui auraient eu lieu, qui n'auront pas lieu à cause de son manque de charité. Attention à ce que vous faites et à ce que vous dites. Notre Seigneur va donc exhorter ses disciples, qui sont déjà des hommes faits, donc à condescendre à tout ce qui peut être utile aux enfants, à se faire enfant pour les amener à Dieu. Donc, notre Seigneur, j'ai déjà expliqué cette phrase, donc notre Seigneur Jésus-Christ a accepté de se faire tout petit, se faire enfant, justement pour faciliter l'arrivée des fidèles dans la crèche de Bethléem. Lorsque les bergers sont venus voir la crèche, au moment de la visite, la première visite à notre Seigneur Jésus-Christ, bon, ils n'étaient certainement pas habillés correctement. Ils étaient habillés peut-être comme des pauvres paysans, c'est certainement pas très propre peut-être. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ, la très sainte Vierge Marie, Saint Joseph, la Sainte Famille, les a acceptés avec bonté. S'il y a un texte, si mes souvenirs sont exacts, c'est un texte de Saint Jean Chrysostome, voilà ce qu'il dit, c'est très beau. L'enfant n'a point de haine, il agit sans malice. Châtié par sa mère, il revient près d'elle. Il préfère aux vêtements des rois les habits grossiers dont elle le couvre. Ainsi, le chrétien, docile aux inspirations de l'Église, sa mère, ne met rien au-dessus d'elle, pas même la volupté, cette reine qui en a servi un si grand nombre. Je vous le dis en vérité, ajoute le Sauveur, quiconque ne recevra point le royaume des dieux comme un petit enfant n'y entrera point. Donc, encore une fois, j'insiste là-dessus, le mot petits-enfants qu'on rencontre au chapitre 10, verset 13 de saint Marc, on lui présentait des petits-enfants. Ces enfants représentent tous les pauvres, les hommes ignorés et misérables. Tous les pauvres, n'oubliez pas qu'il y a un devoir d'apostolat auprès des pauvres, un devoir d'apostolat auprès des non-catholiques. Aller, baptiser, prêcher. Le bon Dieu ne nous a pas envoyé prêcher simplement à des gens convaincus, le bon Dieu nous a envoyé prêcher à des gens qui ne sont pas convaincus aussi. C'est une grande joie pour moi, en retraite, de recevoir en retraite des gens qui ne sont pas catholiques. J'ai eu la grâce, ces dernières années, je crois que j'ai baptisé plus de 70 adultes, et c'est une grande joie pour moi. À propos des retraites, donc, j'ai eu une annulation, c'est un détail, mais je le dis maintenant pour ne pas oublier, j'ai eu une annulation pour la retraite d'avril. Fin du mois d'avril, il y a une retraite, la première retraite de l'année 2020, et j'ai une annulation, donc je peux prendre encore une personne pour la retraite d'avril si c'est nécessaire. J'ai Alors, deuxième retraite, celle de mai est pleine, et les quatre dernières retraites de l'année, il y a de la place dans chacune de ces retraites. Je ferme la parenthèse. Donc, Saint Bède le Vénérable précise les points, le point en disant que si vous n'avez point l'innocence et la pureté du cœur d'un enfant, vous ne pourrez entrer dans le royaume de Dieu. Dans un autre sens, notre Seigneur nous commande de recevoir comme un enfant le royaume de Dieu, c'est-à-dire la doctrine de l'Évangile. Voyez l'enfant qui apprend, il ne contredit pas l'enseignement de ses maîtres, il ne cherche ni raison ni discours pour leur résister, mais il reçoit avec docilité leurs leçons et leur obéit avec respect. Ainsi devons-nous recevoir la parole de Dieu en lui obéissant avec simplicité et sans résistance. On voit bien que notre Seigneur Jésus-Christ ici fustige le vice de l'orgueil. Hein. Si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ça veut dire si vous n'avez pas cette vertu d'humilité, la porte du ciel vous sera fermée. La meilleure façon de fermer la porte du ciel pour nous, c'est de pratiquer le péché d'orgueil. Les pères de l'Église l'expliquent encore. Vous avez d'autres textes ici en bas de la page 28. Notre Seigneur embrasse, bénit les enfants pour nous apprendre que c'est sur les humbles d'esprit qu'il se plaît à verser sa bénédiction, sa grâce et son amour. Rappelez-vous la première béatitude, bienheureux les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit, c'est les gens simples, les gens qui ont cette vertu d'humilité. Donc Saint Jean Chrysostome précise, admirez comme notre Seigneur embrasse les enfants pour les bénir. Il semble dans sa bonté vouloir ramener jusque dans son sein sa créature qui s'en était séparée dès le commencement par sa chute. Et il impose les mains aux enfants comme signe de l'action de la puissance divine. Encore une fois, on voit bien ici à quel point notre Seigneur insiste sur la vertu d'humilité pour ouvrir la porte du ciel. Pas d'humilité, la porte du ciel nous est fermée. Passons à la page 29 sur le polycopier, les versets 17 à 27 de Saint Marc au chapitre 10. Comme Jésus se mettait en chemin, quelqu'un accourut et fléchissant le genou devant lui, lui demandait « Bon maître, que ferai-je pour acquérir la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelez-vous bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Vous connaissez les commandements, ne commettez pas l'adultère, ne tuez pas, ne dérobez pas, ne portez pas de faux témoignages, ne faites tort à personne, honorez votre père et votre mère. » Jésus répondit, et il lui répondit « Maître, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit « Il vous manque une chose, allez, vendez tout ce que vous avez et donnez-le aux pauvres. » Et vous aurez un trésor dans le ciel, puis venez et suivez-moi. » Mais lui, affligé de cette parole, s'en alla triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles, mais Jésus, reprenant, leur dit « Mes petits enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ils furent encore plus étonnés et ils se disaient les uns les autres, et qui donc peut être sauvé? Jésus les regardant dit, cela est impossible aux hommes, mais non pas à Dieu, car tout est possible à Dieu. Alors, il y a deux choses importantes à mon avis dans ce texte. C'est un point que j'aime beaucoup. C'est au chapitre 10, au verset 21. Jésus qui regarde le jeune homme riche l'aima. Et tous les pères expliquent avec raison que ceci est le symbole de la vocation. Jésus regarde d'une façon toute particulière ce jeune homme. Il l'aima. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas les autres personnes, mais il l'aime d'un amour particulier. Ici, c'est le symbole de la vocation. Notre Seigneur Jésus-Christ qui appelle à lui certaines personnes. C'est le choix de Dieu. Pourquoi est-ce que j'ai été appelé à la vocation sacerdotale? C'est le choix du bon Dieu. Il aurait pu prendre des tas d'autres personnes bien plus qualifiées que moi pour remplir cette vocation. Il m'a choisi, donc il me donne les grâces dont j'ai besoin pour remplir mon obligation. Deuxième chose qui est importante, c'est le rappel. Non pas qu'il est impossible pour un riche de rentrer dans le royaume des cieux, mais que plus on est couvert d'argent, plus il est difficile de rentrer au ciel. Il est évident que, attention, notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais condamné la richesse en tant que telle. On voit certains saints qui étaient avec une certaine aisance financière. C'est le cas, par exemple, de la famille de Lazare. Saint Lazare avait hérité de ses parents des biens importants, des biens mobiliers, des biens d'argent importants. Et le bon Dieu ne condamne pas la richesse en tant que telle, mais il condamne le mauvais usage de la richesse. Il est évident que la richesse dessèche les cœurs, et que plus on est riche, plus on est riche de rester en état de grâce. Donc, puisque notre Seigneur Jésus-Christ lui-même ici parle de la vocation, je voudrais un petit peu rappeler les principes de la vocation catholique pour nos parents qui m'écoutent sur Internet. Il est inquiétant de voir à quel point aujourd'hui l'idée de la vie religieuse peut faire peur, même dans les familles de la tradition. J'ai eu plusieurs cas très douloureux en tant que prêtre, comme 40 ans de sacerdoce maintenant, et j'ai vu pas mal de choses. Je me rappelle entre autres un cas d'une famille qui a complètement quitté une chapelle dans laquelle cette famille venait depuis de longues années, tous les dimanches. Ils ont quitté la chapelle dès qu'ils se sont rendus compte qu'un de leurs enfants, sur lequel ils avaient qui était très intelligent, sur lequel ils avaient beaucoup d'espérance mondaine, dès que cet enfant a commencé à parler de vocation, les parents ont paniqué complètement et ont quitté la chapelle pour être sûrs que cette vocation ne puisse pas aboutir. Et il n'est pas rare de voir des parents même retirer, par exemple, leurs enfants d'une bonne école, ou même de nos chapelles, encore une fois, parce que ceux-ci commencent à penser sérieusement à la vocation religieuse sacerdotale. Il y a des choses qu'on voit, on est bien obligé de le reconnaître. Un grand adolescent pense-t-il à la vocation religieuse ? Peu de conseils ne lui sont pas alors prodigués, bien souvent. Attention, il faut réfléchir, ne te décide pas trop vite, termine d'abord tes études pour être certain d'avoir quelque chose au cas où. Tu sais, il faut aussi une bonne famille chrétienne, tu es trop jeune pour te décider, ne te laisse pas influencer par l'abbé, etc. Mais si ce jeune homme est tombé amoureux d'une bonne fille de la paroisse, et voici d'un seul coup les parents et les amis devenus subitement très avares de conseils de prudence, et le mariage est vite décidé. Donc on sent que d'un certain côté, beaucoup de parents se méfient de la vocation, ont peur de la vocation. Je me rappelle un détail très précis, mais ça m'est beaucoup frappé. On entendait certaines phrases un peu tristes et en même temps amusantes. Le jour des prises de soutane à Icône, quand j'étais au séminaire, on prenait le soutane de mon temps le 2 février. Moi, j'ai pris la soutane le 2 février 1975. Et donc, c'est la coutume, le séminariste qui va prendre la soutane, donc revêt son habit séculier donc pour la dernière fois, et donc il se met évidemment sur son 31, donc il se met en costume en général et en cravate, avant de recevoir la soutane. Donc tous les lévites qui vont recevoir la soutane rentrent en procession devant toute l'assemblée, dans la chapelle, donc tous habillés sur leur 31 encore une fois, se présentent à l'autel, recevoir la bénédiction de l'évêque, puis ensuite repartent, quittent la chapelle pour se mettre en soutane et reviennent en soutane. Donc c'est très impressionnant, tout pour les parents. Et régulièrement, on entendait des remarques lorsque les jeunes hommes rentraient dans la chapelle, donc habillés en costume et en cravate, on entendait des jeunes filles qui étaient dans l'assistance dire « Oh, quel dommage, quel gâchis !» Et puis lorsque ces jeunes revenaient 10 minutes plus tard, cette fois-ci en soutane, portant leur surplis plié sur le bras, On entendait de nouveau les mêmes remarques de certaines jeunes filles qui presque pleuraient en disant « Ah, oh, quel gâchis, quel dommage, il aurait fait tellement un bon mari, et voilà, et ils rentrent tous en vie religieuse, il n'y a plus de bons maris qui traînent pour nous. » Bon, c'était amusant, mais en même temps très triste, ça en dit long. Hein. Donc, faites attention dans l'éducation que vous donnez à vos enfants, de ne pas considérer que les monastères, les couvents, les séminaires, les maisons religieuses sont un peu des voies de garage pour quelques malheureuses égarées, de sorte que ces espèces de poubelles dans lesquelles vont se jeter les jeunes filles trop laides ou trop bêtes pour trouver un mari, ou les hommes incapables de se trouver une place au soleil de la société moderne. Hein. Dès qu'un jeune homme veut abandonner une carrière universitaire, par exemple, pour se diriger vers la vocation religieuse, la vocation sacerdotale, eh bien, on entend parfois des remarques très tristes de parents qui se disent encore catholiques. Ceci dit, il est évident qu'il faut être aussi prudent, surtout actuellement. Moi, j'avoue qu'actuellement, je ne sais vraiment pas du tout où je pourrais envoyer une vocation éventuelle, surtout pour les hommes. On ne sait pas vraiment où diriger ces vocations à cause de l'instabilité de plusieurs maisons religieuses ou d'influences modernistes dans ces maisons religieuses. Et aussi à cause de l'instabilité des vocations elles-mêmes. C'est évident qu'un jeune homme qui n'a jamais appris à obéir dans sa famille est incapable de rentrer en vie religieuse, parce qu'il sera incapable de commander plus tard et incapable même de suivre la vie religieuse. Alors, je voudrais rapidement rappeler les règles habituelles concernant les vocations. Saint Alphonse de Ligorie dit que toute personne qui ne présente pas d'obstacle, pas d'empêchement à la vocation, qui a une volonté droite, une intention droite, et qui est acceptée par un supérieur religieux, a le droit de faire un essai de vocation. Il faut penser à ça. Rappelez-vous l'enseignement de Saint Jacques, chapitre 4, dans son épître. « Vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y séjournerons une année, nous trafiquerons et nous ferons des profits, vous ne savez pas ce qui arrivera demain, qu'est-ce que votre vie ?» Vous ne savez pas justement ce qui arrivera demain. Vous êtes une vapeur qui paraît un instant et s'évanouit ensuite. Au lieu de dire, si le Seigneur le veut, si nous sommes en vie, nous ferons ceci ou cela. Donc attention, encore une fois, à bien réfléchir à l'importance de la vocation. Je voudrais vous citer un texte très peu connu, c'est bien dommage, chez saint Thomas d'Aquin. Je l'avais cité dans la lettre numéro 42, sur les lettres doctrinales. Je le recite ici parce que c'est un peu le sujet de ces textes de saint Marc sur la vocation. Donc le plus grand théologien de l'Église catholique a écrit un peu avant sa mort, en 1271, un petit traité, l'opuscule 17, qui est peu connu, au titre très évocateur, contre la pernicieuse doctrine de ceux qui détournent les hommes d'entrer en religion. Il est tout à fait significatif de savoir que cette œuvre a été traduite en français aux éditions du Cerf en 1935 par le père Maréchal, sous un titre totalement anesthésié, l'entrée en religion sous le fallacieux prétexte qu'il était moins long et moins belliqueux. Dans ce traité, ici résumé en quelques phrases, saint Thomas d'Aquin prend la défense de la vocation des enfants. Et si on commence dès la jeunesse à étudier la profession qu'on exercera pendant la vie, pourquoi les futurs religieux ne pourraient-ils pas, dès leur enfance, se préparer à la vie religieuse ? Laissez les enfants venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Voilà ce que dit saint Thomas. Pourquoi aussi détourner les nouveaux convertis de la vie religieuse ? Les premiers disciples du Sauveur et saint Paul n'ont-ils pas suivi la vérité aussitôt qu'ils l'ont connue ? Pourquoi les pécheurs convertis ne pourraient-ils pas, eux aussi, entrer en religion pour y faire de dignes fruits de pénitence ? Après s'être éloignés de Dieu, ne doivent-ils pas mettre toute leur ardeur à réparer par la pratique d'une vertu parfaite ? L'entrée en religion est possible pour tous les hommes, même pour ceux qui n'ont pas pratiqué les commandements de Dieu dans le passé, du moment que la conversion est vraie et profonde. Les préceptes suprêmes, dit saint Thomas, de l'amour de Dieu et du prochain, premier commandement, dépassent de beaucoup les trois conseils évangéliques
De pauvreté, chasteté, l'obéissance, comme la charité, qui est la plus haute des vertus théologales et le lien de la perfection, dépasse considérablement les vertus morales qu'elle vivifie et rend méritoires. Le précepte de l'amour de Dieu ne comporte aucune limite, dit saint Thomas. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, et de tout ton esprit. Donc tout chrétien, dit saint Thomas, doit désirer Dieu sans mesure et avec lui la perfection de la charité. Il doit tendre vers la vie éternelle et pas simplement vers un degré infime de vie éternelle. Les trois conseils de pauvreté, de chasteté et d'obéissance sont très inférieurs aux préceptes suprêmes de l'amour de Dieu et du prochain, mais ils sont une voie plus facile, plus sûre, plus parfaite pour arriver à la perfection de la charité. La vérité délivre de plus en plus ceux qui se donnent pleinement à elle. La vraie pauvreté spirituelle conduit à la suprême richesse. La chasteté, la virginité à l'amour parfait qui ne passe pas, l'obéissance religieuse à la contemplation qui se nourrit incessamment de la volonté divine et qui est le prélude de la vie du ciel. Allons-nous donner à nos enfants affamés des pierres et des scorpions alors qu'en leur inculquant le don de soi pour l'amour de Dieu, nous pourrions les amener si facilement à la porte de la béatitude? Il nous faut dégager nos enfants des biens terrestres et les orienter vers les biens spirituels. Tous les biens de la terre, Jésus, Dieu fait homme, les a méprisés, afin de nous apprendre à les mépriser, et tous les maux de cette terre qu'il recommandait de supporter, il les a supportés, afin que nous n'allions pas chercher le bonheur dans les premiers, ni craindre le malheur dans les seconds. Voilà ce que disait saint Thomas. Il faut réfléchir à cela, n'oublions pas que le but du mariage, c'est la procréation et l'éducation des enfants. Donc le but du mariage, c'est de peupler le ciel d'élus. Certes, il faut des bonnes familles catholiques. Donc il faut aussi des bons enfants catholiques pour faire des bonnes mères et des bons pères de catholiques, c'est évident. Mais il faut aussi des vocations. Et le nombre de vocations est très très petit. Donc faisons attention à ces choses-là. Il nous faut éduquer les enfants de telle manière que les enfants puissent vraiment accéder à une vocation s'ils ont vraiment une vocation, si Dieu le désire. Et le bon Dieu, à ce moment-là, donnera à ses enfants les lumières dont ils ont besoin pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire et où ils doivent rentrer, vu les circonstances dans lesquelles les vocations doivent s'exercer aujourd'hui. Mais il est évident, encore une fois, que si on ne donne pas un minimum d'esprit de pénitence aux enfants, il n'y aura pas de vocation. Puis, les vocations seront là, mais elles vont se dessécher parce que les racines ne peuvent pas pénétrer très profondément dans l'âme de ces enfants, parce que ces âmes n'ont pas été préparées par la pratique de la vertu qui doit venir de l'exemple donné par les parents. Attention. Alors, voyons un petit peu ce que disent les pères de l'Église, au moins commencer, en page 29. J'admire, disent les pères, ce jeune homme qui, tandis que tous les autres ne viennent trouver le Seigneur que pour la guérison de leur maladie, ne lui demande pas la possession de la vie éternelle, malgré la pernicieuse passion de l'avarice qui tout à l'heure le jettera dans la tristesse. Donc la plupart des gens qui venaient à notre Seigneur venaient demander des guérisons physiques. C'était les aveugles, les sourds, les muets, les paralysés, les estropiés. Ils venaient demander une guérison du corps. Bien, ce jeune homme vient demander quelque chose de spirituel. Que ferais-je pour acquérir la vie éternelle? J'ai observé tous les commandements depuis ma jeunesse. Quoi d'autre dois-je faire? Et notre Seigneur de répondre, il vous manque une chose, pratiquez la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Allez, vendez tout ce que vous avez, donnez-le aux pauvres et vous aurez un trésor dans le ciel, puis venez et suivez-moi. Donc c'est admirable, disent les pères, de voir ce jeune homme qui lui demande des choses spirituelles. Il vient demander une aide pour son âme. Ce texte renferme encore une autre leçon. C'est lorsque vous devez conférer avec une personne de vous garder toute flatterie et de tenir les yeux fixés sur Dieu, racine et source de toute bonté, et lui rendre l'honneur qui lui est dû. Donc ce texte est un texte très important. On va voir que les pères de l'Église en ont pas mal parlé. Et nous continuerons donc ceci le prochain cours. Je vais terminer par une prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, toujours et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.